de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les comiques n'inventent rien et ne sont que des miroirs de la société. Certes, mais la société évolue, donc le comique évolue, les comiques évoluent et les comiques au féminin évoluent elles aussi. Bref, au début des années 90, une série de chemins de la connaissance était consacrée aux drôlesses ou aux comiques au féminin. Après la chansonnière Anne-Marie Carrière, après Éliane Boëri, l'une des trois Jeannes, c'était au tour d'Anne Romanoff et de Lélia d'évoquer leurs débuts et de réfléchir aux comiques féminins ou non. Une émission de Pierre Merle, réalisée par Arlette Dave, première diffusion sur France Culture le 25 mars 1992.
Les drôlesses, troisième épisode. Aujourd'hui, les héritières avec deux petites nouvelles dans le monde du rire. Anne Romanoff d'abord et Lilia ensuite. Anne Romanoff, bonjour. Vous faites partie du tiercé ou du quartet des drôlesses dont on parle, je veux dire des femmes comiques actuelles. Alors, est-ce qu'on choisit d'abord d'être comique ?
Non. Non, je crois pas. Je crois que le comique, c'est un don et puis qui se travaille. Mais je me suis jamais dit, un jour, je vais être comique. Je me suis dit, tiens, je fais rire les gens en faisant des sketchs. Si j'en écrivais d'autres, mais je me suis pas dit, je vais être comique.
Ça s'est passé comment
Ça a été très laborieux. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à faire des sketchs en imitant Sylvie Joly. Il y avait des amis, enfin, devant des gens, quoi, qui ont rigolé. Je l'avais juste entendu une fois à la radio, puis j'ai reproduit une mémoire des sketchs. Les gens ont rigolé, donc j'étais très contente. Et puis, il y a un mec qui était là qui m'a dit, tu devrais être actrice, donc tu devrais faire du théâtre. Ah, moi, ça m'a plu. Donc après, donc j'avais 12 ans, mais j'étais très têtue, disons. Alors, j'ai trouvé l'adresse du cours Simon et j'ai été au cours de Simon pour enfants. Donc j'ai commencé comme ça à 12 ans. Et puis après, je continue à faire des sketchs entre 12 et 15 ans devant des amis, etc. Toujours des sketchs de Sylvie Joly, mais j'ai jamais appris un de ces sketchs par cœur. C'était inspiré, quoi, de très lointain même, disons.
Mais Sylvie Joly, c'est votre influence choisie, hein ?
Non, c'est quand j'avais 12 ans. Non, plus du tout maintenant.
Enfin, c'était alors.
Oui.
Le point de départ.
Donc j'ai fait ça entre 12 et 15 ans. Donc après, j'étais au cours Simon pour enfants, cours Simon pour adolescents, après au cours Florent pour adolescents. Et puis donc, de temps en temps, dans les cours de théâtre, je passais les sketchs. Et puis on me disait, c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Alors j'étais vexée. Puis après, entre 16 ans et 20 ans, j'ai pratiquement plus fait de sketch parce que deux ou trois profs de suite m'avaient dit que c'était pas du théâtre. Donc j'étais vexée comme un pou. Et je me suis dit, oui, bah, je sais faire rire les gens, mais de toute façon, c'est pas de l'art dramatique. Moi, je veux faire le conservatoire, je veux entrer à la Comédie Française. Mon idole, c'était Adjani. Je jouais dans l'école des femmes. Je jouais Agnès, tout ça. Alors, je travaillais Le Petit Chat est mort, je travaillais de la tragédie grecque, enfin, d'arrache-pied, quoi. Je voulais absolument rentrer au conservatoire. Et puis, quand les gens qui se souvenaient que je faisais des sketchs me demandaient, je disais non, c'est pas du théâtre, ça m'intéresse pas. Bon, s'ils insistaient, j'en faisais un, ils rigolaient, mais je disais oui, bon, ils rigolent, mais de toute façon, c'est pas du théâtre, donc c'est pas intéressant. J'étais vraiment très braquée. Donc, je prenais des cours de théâtre tout le temps. J'ai jamais arrêté de prendre des cours de théâtre en allant dans beaucoup d'écoles différentes. Et puis après, j'ai eu mon bac assez jeune, à 16 ans et demi, quoi, 17 ans. Et après, donc, je suis rentrée à Sciences Po tout de suite après.
Parce qu'on sait jamais, oui.
Parce que je voulais avoir un autre métier. Parce que si vous voulez, à force de fréquenter les acteurs entre 12 ans et 17 ans, j'étais avec des gens plus vieux quand même. Et je voyais bien qu'ils glandaient dans les cafés, qu'il y ait trois quarts qui faisaient du marketing téléphonique ou qui étaient serveurs ou qui... Bon, ou alors qui étaient entretenus par leurs parents, donc je voyais bien que c'était dur quand même. Et puis j'étais d'un naturel très anxieux, donc je lisais les brochures de l'ONICEP, comment devenir acteur, et puis ils disaient qu'il y avait beaucoup de chômage, que c'était des professions aléatoires, donc ça m'inquiétait beaucoup. Donc j'ai fait Sciences Po, j'ai beaucoup travaillé pour y rentrer, mais enfin je suis rentrée donc, tout de suite après le bac, mais j'ai toujours continué à prendre des cours de théâtre tout le temps, tout en refusant de faire des sketchs, même quand on insistait. Parce qu'en plus, ça me reprenait tous les deux ans, je repassais dans un cours de théâtre, je faisais des sketchs, on me disait « c'est bien, mais c'est pas du théâtre ». Mais chaque fois, hein, je veux dire, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui m'ont dit ça. Ou alors « c'est bien, mais c'est pas de l'art dramatique ». Je continuais alors à préparer le conservatoire, alors je l'ai passé, je l'ai raté, j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Je passais aussi la rue Blanche, là on pouvait le passer un nombre illimité de fois, donc je crois que je l'ai passé 3 fois. Chaque fois, je l'ai raté 3 ou 4 fois, d'ailleurs, je ne m'en rappelle plus. Donc, chaque fois, c'était un désespoir total. Je vois tous les concours, de toute façon, de théâtre que je passais, je les ratais. Les castings, on ne me prenait jamais. Enfin, bon, c'était assez catastrophique, quoi. Chaque fois qu'il y avait des gens dans mon cours de théâtre qui faisaient des compagnies de théâtre, genre, même des trucs merdiques, hein. Ils me demandaient pas. Donc, c'est vrai que ça me.
Il y a de quoi déprimer, là, quand même.
Ah oui, je suis passée vraiment par des passages, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, quoi. Parce que c'était vraiment vital pour moi d'être actrice. Mais alors, plus ça allait, moins je voyais comment j'allais y arriver, quoi. Alors, donc là, je suis partie au Club Méditerranée au mois de juillet 86. Et puis là, comme il n'y avait pas de prof de théâtre, j'ai enfin osé faire des sketchs devant du public. Des sketchs que j'avais écrits cette fois-ci, sur le Club Méditerranée. Et là, ça a très bien marché, donc j'ai joué plusieurs fois. Je suis rentrée à Paris, j'ai été dans mon gros théâtre, j'ai passé les sketchs. On m'a dit, c'est bien, mais c'est pas du théâtre. Je suis repartie en pleurant, mais là, il y a des gens qui sont venus me consoler. Je pleurais tellement qu'il y avait deux profs de théâtre. Et le deuxième, il m'a dit, repasse tes sketchs. Puis en plus, comme les élèves, ils avaient rigolé et applaudi, c'est très rare que les gens applaudissent dans un cours de théâtre. Ils allaient voir le prof en disant, mais pourquoi vous dites que c'est pas du théâtre si on a rigolé, etc. Ça a posé des tas de problèmes dans le cours. Finalement, le prof a regardé, il a dit, oui, c'est pas tout à fait du théâtre, mais ça peut en devenir. Enfin bref, il a trouvé une parade. Après, avec ses sketchs, j'ai repassé la rue Blanche, j'ai re-raté. Donc, je me suis retrouvée diplômée de Sciences Po et puis élève de cours de théâtre, mais avec l'envie de travailler, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu une annonce dans Libé qu'un cabaret cherchait des gens pour faire des sketchs. Je me suis présentée.
C'était quel cabaret?
Il a fait faillite. Il s'appelait. Il m'a pas pris d'ailleurs. Donc j'ai passé une audition et on m'a pas pris. Mais si vous voulez, ça m'a pas traumatisée parce que j'avais l'habitude. J'avais beaucoup l'habitude qu'on me prenne pas, quoi. Donc j'ai été dans un deuxième cabaret qui s'appelait Yankels, qui lui m'a pris et qui a fait faillite aussi depuis. Et après j'étais dans un troisième, le caveau de la Bolée, qui m'a pas pris. Et puis après, j'étais dans d'autres cabarets qui m'ont pris. Donc ça, c'était en janvier 87, la première fois que je jouais dans un cabaret à Paris. C'est vrai que ça a été assez vite après. Mais moi, je sais que pendant 10 ans, j'ai souffert comme une pauvre malheureuse, quoi. Donc bon, après, c'est vrai, mai 87, je suis passée à la télé la première fois. Juillet 87, Festival d'Avignon. Et puis mon premier spectacle au Blanc Manteau, c'était à partir de mars 88. Donc c'est vrai que j'ai mis un an pour arriver à faire un spectacle d'une heure dans un café-théâtre. Donc c'est vrai que ça a été vite, mais il y a quand même eu 10 ans de souffrance derrière.
Comment j'ai rencontré Jean-Michel? Tu sais, Jean-Mi et moi, au début, on bossait dans la même MJC, tu vois. Mais tout nous séparait parce que, bon, il était végétarien. Moi, je mangeais macrobiotique. Il était animateur guitare ciné-club et moi, animatrice poterie macramé. Non, mais tu vois, je veux dire, Jean-Mi et moi, depuis 7 ans, on vit ensemble peut-être, mais je veux dire, on n'est pas un couple. Ah non! On est une communauté provisoire de 2 personnes. Ouais, parce que tu vois, nous, je veux dire, chaque fois qu'on a un conflit, on organise une table ronde à 2. On dialogue pendant des heures. Comment tu te sens, Jean-Mi? Est-ce que tu penses sentir ce que je vois quand tu sens ce que je pense, tu vois? Ah ouais, mais parce que nous, je veux dire, on partage tout en deux. Les joies, les peines, la quatrelle, le chat, tout. Non mais attends, c'est chacun selon son feeling. Oh, 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 oh. Non, mais tu sais qu'un soir, à la limite, je peux très bien dire à Jean-Mi, je me sens pas de faire la bouffe ce soir. Ok, Marie-Jo, on dîne pas.
Donc finalement, la filière café-théâtre avec un petit passage au Club Méditerranée, bon, on dit beaucoup de choses là-dessus,
mais
c'est une bonne école quand même, métayer la feuille, il y a des tas de gens qui l'ont fait.
Non, mais moi j'étais un mois et demi, hein. J'étais pas une vraie géo, j'étais géo-père. Ça veut dire que j'étais pas payée en fait. J'étais logée, nourrie et pas payée.
Alors est-ce qu'il existe pour vous un humour post-féministe, et puis comment est-ce qu'il se caractérise, et puis quelle place est la vôtre là-dedans?
Quand je fais de l'humour, je cherche pas à savoir si c'est féministe ou post-féministe. Je pense que les comics, ils inventent rien. C'est des reflets de la société, les comics. C'est des miroirs de la société. Enfin, comme tous les artistes, mais peut-être plus les comiques, parce qu'ils doivent être ancrés dans le quotidien, dans la société. Disons que le féminisme, tel qu'il était dans les années 70, il a évolué. Donc, c'est pas l'humour, mon humour qui est post-féministe, c'est la société qui est, hein.
Pour vous, à 26 ans, le féminisme, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi?
Le féminisme militant mérite. Le côté, oui, nous, les femmes, on doit être égales des hommes. En même temps, je sais très bien que dans plein de pays, même, c'est bien qu'il y ait un mouvement féministe dans les pays, que ce soit les pays islamistes ou les pays, certains, plein de pays d'Afrique ou tout ça. C'est évident qu'il y a. Mais là, nous, dans nos sociétés actuelles, ce que je dis, c'est que le problème, c'est pas tellement maintenant, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes. C'est-à-dire comment les femmes et les hommes peuvent vivre ensemble d'une manière harmonieuse, c'est ça le problème.
Écoutez, moi, je ne peux pas vous parler de mari. Parce que je vis sans homme depuis maintenant. Depuis maintenant toujours. Et ma foi, je m'en passe très très bien. Oh, bah, ce ne sont pas les occasions qui manquent, hein. L'autre soir, j'étais dans le métro. Je rentre à la conseille de classe. Oui, alors, un peu de respect pour le corps enseignant. Et puis, il y avait un homme qui me regardait depuis trois stations, enfin, plutôt bien fait, musclé. Alors, je ne suis pas prude. Je le regarde aussi. Enfin, discrètement. On ne sait jamais. Vous savez ce qu'il me dit? Deviens poupoule. Est-ce que j'ai une tête de poupoule? Alors, heureusement, j'ai ma petite bombe lacrymogène. Je l'ai sortie, je l'ai aspergée en beaucoup. Tout le wagon était en larmes. Alors, il était furieux, il m'a traité de mal baisé. Alors là, je dis non. D'abord, je ne suis pas mal baisée, je ne suis pas baisée du tout, non.
Vous, comme d'ailleurs beaucoup d'autres femmes, on dirait que la politique, ça vous touche pas tellement.
C'est pas tellement ça, c'est aussi pareil. Encore une fois, on est des reflets de la société. Voilà, je vais pas rentrer dans les trucs que tout le monde sait, mais il y a une dépolitisation, les gens sont moins intéressés par la politique. Donc.
Non, mais il me semble qu'il y aura des choses à dire, justement. Parfois, on se dit, si Coluche était là, il y aurait quelques bons sketchs. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais, si. Par exemple, si on voit le comique chansonnier, tout ça, c'était très très fort sous la 4e République. Est-ce que les gens étaient passionnés à cette époque? J'en sais rien, mais il y avait une grande vie politique. Mais ça, c'est toujours un problème généraux. Il y a plus d'espoir dans les idéaux. Donc les gens, maintenant, il y a un repli sur soi. C'est pas aussi un hasard si les gens font des one-man shows maintenant. Et dans les années 70, ils étaient dans des troupes. Maintenant, c'est l'individu.
Ils faisaient aussi des one-man shows à l'époque. On disait que c'était pour des raisons économiques,
oui,
etc.
Enfin. Mais enfin, maintenant, il y a quand même un côté individualiste, chacun pour soi. On croit que justement, dans la collectivité, il y a plus d'espoir. C'est au niveau individuel que se trouve le bonheur. Donc les comiques reflètent ça.
Vos cibles préférées, c'est les femmes?
Les deux, les femmes, les hommes.
Plutôt les femmes, non?
Oh, un peu plus les femmes, mais aussi, oui, plus les femmes, oui.
Vous trouvez qu'elles ont une puissance comique intrinsèque plus
non, mais
plus
disons forte. Que je suis une femme, donc j'interprète des femmes, donc je mets en valeur les défauts des femmes et puis mes propres problèmes à moi. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Enfin, il y a des différences.
J'espère.
Heureusement, mais je veux dire, pour moi, c'est assez. Les gens sont des êtres humains avant tout, et bon, ils ont des problèmes, chacun fait ce qu'il peut, chacun rame. Bon, après, les hommes, les femmes, c'est des détails, c'est des différences culturelles, et bon, physique, bien sûr, mais je veux dire, pour moi, il y a des gens qui pensent, oui, les hommes sont ceci, les femmes sont cela. Pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre un homme et une femme en tant qu'être humain, je veux dire. C'est des êtres humains, et je ne considère pas différemment un homme d'une femme, quoi.
Il n'y a pas une manière de faire l'humour proprement féminine?
Non, je crois pas.
Lilia, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Vous êtes avec Anne Roumanoff, qui vous a précédé dans l'émission, et puis deux, trois autres. Vous êtes parmi les dernières découvertes du Café Théâtre. Il y a à peu près un an, on ne vous connaissait pas, ou très peu.
Oui, tout à fait.
Et alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous définissez et comment vous définissez votre comique?
Je vous dirais simplement que je ne suis pas une théoricienne du rire.
Comment ressentez-vous votre comique?
Je peux le ressentir par rapport au regard des autres, ce que me disent les autres du spectacle, du personnage que je joue sur scène. Alors, par rapport aux autres, il semblerait, c'est ce que j'entends dire et c'est ce qu'on lit dans la presse me concernant, que mon humour, par rapport aux autres femmes comiques, alors là, je parle simplement des femmes, est peut-être un petit peu plus agressif, disons, un peu plus, un petit peu rentre-dedans, comme j'ai entendu dire, et un petit peu plus grossier aussi, je dois l'avouer. Mais ça, je n'en ai pas du tout honte.
Mais je crois que vous disiez, j'ai entendu ça ou lu ça quelque part, qu'une femme peut se permettre d'aller plus loin qu'un homme. C'est vrai ça ou... Vous le pensez vraiment ou c'est une provocation de plus?
C'est une petite provocation de plus et un petit clin d'œil à mes amis comédiens, comiques, hommes. Mais en fait, je voulais simplement dire que lorsque des comiques hommes disent des choses grossières, eh bien, ça passe en général. Et lorsque ce sont des femmes, eh bien, ça passe moins bien ou ça passe et là on se dit quand même elle y va fort alors que dans la bouche d'un garçon il y va fort mais on l'accepte plus facilement. Donc de toute façon il est évident que pour les gens une femme qui est grossière, aussi grossière qu'un homme, eh bien elle a l'air d'aller plus loin. Mais en fait je vais pas tellement plus loin que les hommes, en tout cas plus loin peut-être que les femmes en ce moment, mais il y aura peut-être dans les mois qui suivent, vous savez bien que les comiques en ce moment sont en train d'éclater, les femmes en tout cas, il y aura peut-être une jeune comédienne beaucoup plus insolente que moi et beaucoup plus grossière, pourquoi pas, et j'en serais ravie.
C'est dû à quoi d'ailleurs d'après vous le fait qu'en ce moment beaucoup de jeunes comédiennes éclatent comme ça, dans l'exercice solitaire de la scène?
Je ne sais pas, est-ce que je peux invoquer le problème du chômage dans le métier déjà des comédiens? C'est vrai que c'est un métier où il y a, je crois, 90% de chômage et que, en tout cas, pour ma part, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour ma part, je me suis retrouvée à écrire des sketchs seule et à me produire seule sur scène parce que je ne trouvais pas de boulot, tout simplement, parce que je rêvais de faire du cinéma et que le cinéma ne m'attendait pas. Donc, j'ai monté des spectacles et je me suis fait plaisir au moins... seule sur scène, mais c'était pas un souhait au départ d'être seule sur scène. Peut-être que dans l'avenir, bon, maintenant j'en suis en fait ravie et mon ego est très content de ça. Mais je ne dis pas que dans l'avenir, je n'aimerais pas jouer avec d'autres personnes et partager la scène avec eux.
Il faut dire que vous écrivez vos textes.
Oui, j'écris mes textes. D'ailleurs, je crois, enfin, il me semble comme la plupart des one-man shows, quoique certains quand même se font aider par des gagman ou des amis simplement qui écrivent avec eux.
Comment vous est venue, Lilia, la vocation comique?
Ah ben ça, c'est tout petit déjà, hein, toute petite. À l'âge de 8 ans, déjà, j'écrivais des sketchs à la récré. Je les faisais jouer, je les jouais, je montais des spectacles pour les fêtes de fin d'année scolaire, tout ça. Donc vraiment, ça m'est venu comme ça, d'autant plus que je ne suis pas née dans une famille d'artistes du tout. Je ne suis pas une enfant de la balle, comme on dit.
Vos origines tunisiennes, ça compte beaucoup? Vous en parlez beaucoup dans vos spectacles ou pas? On vous a comparé à Smaïne, bon, c'est peut-être un peu facile. C'est peut-être un peu vrai aussi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, ça ne compte pas énormément. Je veux dire que dans le cadre du spectacle, en tout cas, je l'évoque parce que, bien sûr, je ne peux pas y échapper à mon côté typé et je ne cherche pas à y échapper.
Oui, c'est le titre de votre premier spectacle, hein, je crois, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Non, vous voyez, ça vous est resté parce qu'en fait, lorsque je suis interviewée, souvent, on me parle de mon côté typé et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un sketch dans le spectacle.
Qui s'appelait
Qui s'appelle Je suis typé. Donc, je fais remarquer quand même que je suis typé et où j'évoque un petit peu l'intégration. Mais contrairement à Smaïne qui, lui, revendique complètement ça, joue avec l'accent arabe et dénonce les problèmes de l'intégration et défend ses copains beurre des banlieues, etc. Moi, c'est pas du tout ça. Ce petit sketch, c'est en fait, il parle de mon côté typé et puis bon, ça permet un petit peu de dérision par rapport à ça, mais je n'en joue pas. C'est pas un choix. Moi, j'écris toute seule mes sketchs, j'écris ce qui me fait rire et disons que Smaïne fait très très bien ça. Si on m'a souvent comparé à Smaïne, c'est simplement parce que lui aussi, il est typé, je crois, et qu'on a les mêmes origines et que c'est vrai que la facilité, c'est de dire « Ah, bah, une Smaïne au féminin », c'est ce qui a été dit, mais en fait, dans le cadre du spectacle, pas du tout.
Ça fait comment, je suis typée?
Ça fait que je me regarde dans une glace, à un moment donné, dans le spectacle, et puis je pousse un hurlement. Alors les gens, ils s'attendent à ce que je dise quelque chose de particulier. Je dis « Oh, qu'est-ce que je suis typée ? Mais vous êtes dégueulasse, hein, vous me disiez rien. Oh si, écoutez, regardez, je suis typée. Non, puis ça se voit en plus. » Et alors après, il y a des tas de choses que, soi-disant, je cherche à faire pour essayer de m'intégrer. Je dis, ah oui, tiens, bah, je parle de Smaïne à un moment donné. Je dis, bah, écoutez, je vais peut-être faire un sketch sur les Arabes, moi aussi, comme Smaïne. Il faut dire que j'adore Smaïne. C'est vrai, c'est vachement bien, Smaïne. Et puis, franchement, ça me fait plaisir de voir un Arabe qui a réussi. Non, bah écoutez, il faut bien dire que des Arabes qui ont réussi, il n'y en a pas beaucoup hein, par rapport aux Juifs. Bah, c'est vrai, ça, eux, ils ont Einstein, Bernstein, Olivenstein, Kriegstein, Ellenstein, Frankenstein. Et nous, alors, on a qui, à part Khomeini? Alors, j'essaie de trouver toutes les choses qui pourraient faire que je puisse m'intégrer. Alors, j'ai dit, à un moment donné, je vais franciser mon nom. comme mon copain Mohamed, pourquoi pas. Lui, c'était Mohamed Ben Salah Ben Ali. Eh bien, écoutez, il est devenu Jean-Claude Labrosse. Vous trouvez ça ridicule? Pourquoi pas, après tout. Il y en a bien un qui s'appelle Jean-Marie Le Peigne. Bon, voilà, ce sont des petites choses comme ça, à base de petits jeux de mots et de...
Vous avez eu des réactions déjà à ça ou pas? Les gens le prennent comment?
Des réactions de rire, parce que c'est vraiment l'autodérision, quoi, je crois. Et à un moment donné, je dis, ah oui, quand même, qu'est-ce que j'entends comme truc sur les Arabes? Alors, on dit que les Arabes sont voleurs, qu'ils sont menteurs, menteurs. Remarquez, c'est normal, ils ne vont pas avouer qu'ils volent. Bon, donc, vous voyez, quand même, on tape un petit peu sur tout le monde, mais très gentiment, c'est pas... Parce que des Arabes voleurs, bien sûr qu'il y en a, comme partout, voilà.
Quand vous avez eu envie de faire ce métier, est-ce qu'il y avait une comédienne qui faisait déjà ça, qui était pour vous un petit peu un exemple, un modèle, un phare?
J'avoue que dans les femmes, pas tellement, hein. Pas tellement, parce qu'il y en avait
moins. Il y avait toute la génération des femmes des années 70.
Mais moi, je jouais à la Marelle à cette époque. Non, mais c'est vrai, je jouais à la Marelle. Donc, ouais. C'est vrai que les gens, je n'ai pas connu, quoi. Et j'ai connu plus tard. C'est-à-dire que maintenant, en bonne professionnelle, j'ai les cassettes de tous mes amis comiques. Donc, j'ai acheté aussi la cassette des Trois Jeannes. J'avoue que, par rapport aux comiques que je connais, c'est un petit peu dépassé maintenant. Je crois que l'humour a évolué et je suis sûre, puisque je le sais par les gens qui les ont connus, qu'à l'époque, c'était pratiquement révolutionnaire, que des femmes comme ça se mettent en avant, parlent des problèmes des femmes, etc. Alors peut-être qu'inconsciemment, moi, j'ai dû profiter de ces premières femmes comiques qui sont arrivées dans les années 70 et qui ont fait que l'humour a évolué. Et donc, moi, je suis arrivée après.
Mais quelques noms comme ça, ça vous dit quoi? Par exemple, Sylvie Joly, Zouk, Balasco.
Oui. Alors plus Balasco, parce que son...
Vous avez joué d'ailleurs dans un de ses films, je crois, non?
Oui, oh, ben, j'avais un petit rôle dans Les Keufs, effectivement. Effectivement, si on parle femme comique, Balasco, parmi celles citées, quoiqu'elle ne fait pas de one-man show, je suis très sensible au style de l'humour de l'équipe du Splendide. Enfin, l'ex-équipe du Splendide. Voilà, le Père Noël est une ordure, pour moi, c'est un petit bijou, quand même.
Le premier spectacle comique qui vous a emballé, c'était quoi?
Le premier personnage qui m'est marqué, c'était à la télévision. C'était, je m'en souviens très très bien, j'étais encore gamine. C'était Coluche lorsqu'il est arrivé avec son histoire, l'histoire d'un mec. Je ne connaissais pas ce style d'humour, c'était quand même particulier parce que cette histoire, l'histoire d'un mec où il ne dit rien, il ne fait que répéter continuellement cette phrase, c'est vraiment l'humour de l'absurde, endossé par un personnage comme ça, clown, gros, enveloppé, le clown quoi. Avec une tête pas possible. Oui, je crois que c'est vraiment le premier comique qui m'est marqué, ouais.
On dit souvent que les femmes ne décollent pas toujours vraiment des choses réelles, enfin.
Vous en connaissez beaucoup des comiques qui décollent des choses réelles? Moi, j'en connais pas beaucoup parce que on décolle quand même dans la mesure où de toute façon tout est grossi. Donc on décolle de toute façon par rapport à la réalité, sinon ce serait pas drôle, ce serait triste. Et puis je crois que les comiques de tout temps ont été un miroir de la société plus que... Si, il y en a un qui décollait de la réalité et qui était même, comment dirais-je, qui annonçait même ce qui allait se passer pratiquement, c'était Charlie Chaplin. Quand il a fait le dictateur, des films comme ça, c'est le seul qui a vu les choses bien avant les autres. Sinon, effectivement, la plupart du temps, on colle à la réalité parce qu'on est un miroir.
Mais Chaplin, c'est votre référence numéro un, enfin, c'est...
Ah, pour moi, c'est le plus grand comique de tous les temps.
Absolument indémodable et bon...
Complètement. Quand on revoit ses films, c'est toujours d'actualité, c'est toujours génial, c'est toujours... C'est le plus grand pour moi, oui.
Qu'est-ce qui vous inspire alors pour un sketch?
Il n'y a pas de règles, enfin, en ce qui me concerne. Vous savez, dans un spectacle d'une heure et quart, il y a une quinzaine de sketchs. Et certains ont été écrits comme ça, sur une idée. C'est vrai que je bouquine pas mal aussi. Je lis énormément de magazines. Des fois, ça part d'un sujet que je lis dans un magazine. Et le calvaire de la beauté, ça a été ça.
Ça peut donner quoi, par exemple, le calvaire de la beauté, en deux mots?
Alors, le calvaire de la beauté, je dis que c'est affreux quand même d'être belle parce que je suis une agression esthétique d'abord. C'est vrai, 90, 60, 90. Bon, faites pas le 16 avant, c'est pas mon téléphone. Les autres disent, j'entends souvent la petite phrase perfide, oui, elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle a l'air con, des choses comme ça. Et c'est très, très dur à vivre. Alors que moi, je suis comme tout le monde, finalement, je voudrais tellement, tellement être aimée pour mon argent. Bon, des petites choses comme ça, donc c'est pas très très méchant. Mais c'est un sketch en fait, là c'est très difficile de vous le faire parce que c'est un sketch qui se joue avec le public. Je prends un petit peu à partie les gens et puis à un moment donné, je désigne une femme du premier rang. En général, je l'ai choisie toujours mignonne pour ne pas avoir de problème. Et je dis, bon, moi c'est affreux parce qu'un bouton sur le nez, c'est la déprime. Je mobilise mon psy, mon dermatome, mon gynéco, je m'isole 3 semaines. Alors que, bon, prenez cette dame par exemple, Hein. Eh ben, elle s'en fout, je veux dire, un bouton de plus ou de moins. Mais bon, alors ça, c'est un petit peu à froid, là, comme
oui,
ça.
C'est sympa, oui.
Mais c'est jouer avec le public. Ouais. Bon, je prends toujours quelqu'un de, en fait, une femme très mignonne et donc qui le prend bien. Il y a des thèmes comme ça. C'est vrai qu'il y a, on parlait du harcèlement sexuel.
Oui, on en fait beaucoup en ce moment là-dessus. Hein.
Bah, écoutez, De Closet a fait une émission qui est passée le 29 janvier sur le thème du harcèlement sexuel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si les gens l'ont vu. Il y avait Véronique Neyertz qui était invitée, etc. Bon, il y avait grand débat, des représentantes d'associations féministes et puis des pauvres nanas qui étaient venues raconter comment elles avaient été harcelées par leur chef, etc., leur supérieur hiérarchique. Et on a fait un petit gag avec De Closet à un moment donné. Il appelle une certaine mademoiselle Ricardo pour donner son témoignage, etc. Et je suis arrivée sur le plateau et j'ai fait mon sketch sur le harcèlement sexuel comme si c'était une histoire vraie. Donc, je raconte tout ce qui m'est arrivé, mais évidemment d'une façon comique. Ce qui a, d'ailleurs, il y avait de tout. C'était très drôle dans le studio parce qu'il y avait des jeunes qui étaient évidemment écroulés de rire. Il y avait les féministes qui étaient atterrés en se demandant ce que je faisais là, en se disant « mais elle ferait mieux d'aller chez De Chavannes ». Enfin, il y avait de tout et c'était très drôle. Et c'était une façon aussi, De Closet avait vu ce sketch et a voulu le programmer, c'était une façon aussi de dédramatiser le problème du harcèlement sexuel, d'en rire, et etc. Et c'est vrai que dans le harcèlement sexuel, la fille, elle n'est pas contente parce que d'une part, elle se fait harceler sexuellement, elle cède pour sauver la prime de fin d'année. Donc jusque-là, c'est toujours très classique. Et puis en plus, c'est vraiment un salaud ce type parce qu'il va le raconter aux copains, à tous ses collègues de l'informatique. Il leur a dit « je lui ai labouré le point G comme si je jouais avec la souris de mon Macintosh ». Donc quand même.
Oui, c'est romantique. C'est bien.
Bah, oui, en tout cas, c'est je le fais dire à un homme. Hein.
C'était Les Chemins de la Connaissance, Les Drôlesses ou Le Comique au Féminin, une série de Pierre Merle, réalisée par Arlette Dave, avec Anne Romanoff et Lélia. Première diffusion sur France Culture le 25 mars 1992. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, ainsi que les deux premiers volets de la série consacrés à Anne-Marie Carrière et à Eliane Boëri des Trois Jeannes.